Ce qui est important pour elle, Françoise Dolto, ce n'est pas le caractère spéculaire du miroir, ni l'image scopique qui s'y reflète, mais la fonction relationnelle accomplie par un tout autre miroir, d'une toute autre nature, le miroir de l'être du sujet dans l'autre. Juan David Nacio. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre pour titre de cet entretien le titre d'un livre que vous venez de publier en commun aux éditions Rivage, Françoise Dolto et Juan David Nacio. C'est comme le titre d'une légende, à ceci près qu'il ne s'agit pas d'une légende, mais d'une histoire et de l'histoire de chacun de nous, l'enfant du miroir. Quelle est la place du miroir dans le développement d'un enfant? Et d'abord, de quel miroir s'agit-il, Juan David Nacio?
Oui, il ne s'agit pas du miroir que nous appelons habituellement la glace. Ce n'est pas ce miroir-là dont il s'agit. Il y a, vous savez, il y a plusieurs miroirs dans la vie d'un sujet et dans la vie d'un enfant. Il y a le miroir, la glace, certes, mais il y a surtout le miroir des images que les autres nous renvoient. Et surtout, d'abord, l'image que la mère renvoie à l'enfant, et même le visage. Dolto le dit très bien dans son livre « L'image inconsciente du corps ». La première image que l'enfant perçoit de lui dans un miroir, c'est dans les yeux et dans le visage de la mère qui vient de le regarder après la naissance, immédiatement après la naissance. Et c'est la mère nourricière. C'est ça le miroir, hein, n'est-ce pas? Il y a donc le miroir glace et puis il y a le miroir des images que les autres nous renvoient. Et puis il y a une troisième sorte de miroir, c'est le miroir qui n'est pas extérieur. C'est un miroir qui est en nous. C'est l'image de cet autre internalisé en nous, avec laquelle nous sommes constamment en train de nous confronter.
Et l'enjeu est entre ces deux images, François Dolto, entre l'image intérieure, l'image inconsciente.
C'est ça. Et ce sont des images dont nous ne savons pas qu'elles sont partielles. Nous ne savons pas qu'elles sont partielles. Nous nous sentons, par exemple, le nourrisson se sent entier quand sa mère est présente. Il se sent entier, ému par la faim, par le désir de vivre, par combler son manque en la tétant, parce qu'il sent son odeur, par exemple. Si l'odeur de la mère n'est pas là, l'image de lui, de son corps complet, avec les potentialités, les possibilités de téter, n'est pas là. Il faut qu'il ait l'odeur de la mère pour pouvoir, en effet, se savoir être vivant, complètement et à compléter. Et puis, le choc qui viendra un jour, c'est de voir son visage dans un miroir plan. Ça viendra toujours à un moment donné, ne serait-ce que dans la rivière ou dans un étang. La rivière est peut-être trop remuante, mais dans un étang, l'histoire de Narcisse. Bon. Et de tout temps, il y a eu des surfaces planes. Dans toutes les civilisations, nous trouvons des petits miroirs ronds où les gens pouvaient mirer leur visage, c'est-à-dire le visage que les autres ont vu mais qu'ils ne connaissaient pas. Parce que nous ne connaissons notre visage que dans le visage de la mère.
L'importance de l'image inconsciente, vous l'avez rencontrée chez les enfants aveugles.
Ah bien sûr, les enfants aveugles parlent tout le temps de voir et ils vous disent,
ils disent je vois
tout le temps. Ils disent, mais je l'ai bien vu et vous pouvez leur demander mais vous avez vu ça veut dire quoi pour vous puisque vous êtes aveugle et que vous ne voyez pas. Oh bah celle-là, et ils vous répondent bah celle-là, elle en a une bien bonne. Tout le monde dit voir, pourquoi je le dirais pas. Pour eux, se voir veut dire je perçois. Voir, c'est percevoir par tous les moyens qui font une vision symbolique de soi l'autre, de l'autre soi.
On dit le miroir. Et immédiatement, on pense à un rapport visuel. Oui. Mais le miroir, comme disait Madame Dolto tout à l'heure, c'est aussi miroir auditif, tactile,
olfactif,
gustatif. Oui. Miroir, c'est tout ce qui nous renvoie et permet de constituer l'image inconsciente que nous avons de nous-mêmes, si vous voulez.
Je crois que vous avez un exemple très saisissant de cette affaire d'un petit enfant qui était malade et, ou qui ne s'alimentait plus et à qui on a donné
l'odeur de la mère.
L'odeur de sa mère à travers une écharpe ou un foulard.
Oui, c'est ça, un foulard qu'elle avait porté, un linge de corps de la mère. Et ce bébé qui avait tété sa mère pendant 3 jours et qui se laissait mourir de faim, impossible qu'il avale, il ne savait pas avaler.
Parce qu'il avait été coupé d'elle.
Il avait été coupé d'elle brusquement, parce qu'il avait fallu qu'elle soit ramenée à l'hôpital. À l'époque, c'était en pleine guerre. Et on avait laissé l'enfant à la ferme avec la personne qui s'occupait de lui avec sa maman. Et c'est d'aller chercher le linge du corps de la mère, de le ramener à l'enfant et de le mettre autour du cou. Et le biberon a été tété immédiatement. Il s'est reconnu existant. Moi, ma maman, la sécurité du vivre était là.
C'est pour ça que tous ces miroirs qui reprennent tous les sens sensoriels, toutes les perceptions sensorielles, viennent à un certain moment du développement de l'enfant, viennent se concentrer dans cette confrontation première avec l'image, alors oui, sur un miroir plan. Je veux dire que la confrontation avec le miroir plan, c'est comme la convergence, à un moment, de toute cette série des stimulations qui viennent de l'extérieur, qui rassemblent différents sens, et qui étaient préalables, et qui viennent à ces moments-là, devant le miroir plan, se matérialiser sous la forme de l'être humain ou l'enfant devant son propre image spéculaire.
Alors, oui, mais alors c'est ça. Que dirait un enfant qui se voit dans une glace pour qu'il n'y ait pas, pour ne pas entretenir cette confusion entre image inconsciente et son image?
Mais justement, ne pas lui dire c'est toi. Lui dire c'est l'image de toi dans la glace.
Voilà.
Ce qui n'est pas du tout la même chose.
C'est ton image, ce n'est pas toi.
C'est l'image de toi, c'est même pas ton. Oui. C'est l'image de toi, comme tu vois mon image dans la glace à moi, la maman à côté de lui. Quand un enfant voit l'image de l'autre. Car c'est affolant d'un être humain de voir l'autre, il ne sait pas qui c'est, il croit. D'ailleurs, un enfant qui s'appelle déjà Toto ou son vrai prénom, quand il voit pour la première fois un miroir, il court à ce miroir en disant bébé, mais pas du tout lui. Il va vers bébé parce qu'il a envie d'avoir un congénère avec lui. Ça, les enfants sont très sociaux, très rapidement, d'enfants de leur âge. Et il tombe sur une surface froide, et ça ne rime à rien, qui fait un mouvement vers l'autre, et l'autre fait le même mouvement qui ne rime à rien, qui n'est pas une réponse, qui n'est pas un complément. C'est tout à fait traumatisant. Après la première joie, ah bébé, quelle joie d'aller au miroir, tout d'un coup... aller vers cet étranger. Qui est cet étranger? Et j'ai donné un bel exemple d'une observation d'une mère qui avait les jumeaux. Et cet enfant croyait, avait toujours cru qu'il était l'autre.
Dans le miroir, l'enfant découvre alors quelqu'un d'autre, oui, que lui-même. Il découvre l'autre.
Mais grâce à la personne tutélaire qui est avec lui dans la glace, il découvre que son aspect, c'est celui-là et qu'il ne pourra plus en changer de ce visage, y compris de ce sexe, parce que c'est face devant et que les autres voient le devant comme lui voit le devant, alors que nous ne voyons pas notre dos. À partir du thorax, nous nous voyons. Nous ne voyons pas nos épaules, mais nous ne voyons pas notre dos. Hein. Et alors dans le miroir, il voit entier ce visage qu'il ne voyait pas, qui lui manquait quand il regardait son propre corps. Mais il voyait les autres. Et tout d'un coup, il découvre qu'il est comme les autres, alors qu'il se pensait le visage de sa mère ou de son père quand il regardait son père ou sa mère.
Ceci nous ramène à la symbolisation qu'on évoquait au début de la semaine. C'est un autre symbolique qui apparaît là.
C'est ça. C'est-à-dire que la personne qui accompagne l'enfant dans cette expérience du miroir, c'est elle la représentante du symbolique. C'est-à-dire que c'est elle la représentante non seulement pas de la parole, c'est la représentante de la parole parce qu'elle dit à l'enfant, regarde, cela... C'est l'image, ce n'est pas toi, c'est ton image ou l'image de toi dans le miroir. Mais elle représente aussi, et très important, cette parole ne sera entendue par l'enfant, à nouveau nous revenons sur ce que nous disait avant-hier, qu'à condition qu'il y ait un lien d'amour avec l'enfant. Parce que vous pouvez lui dire ça, un éducateur peut dire ça à l'enfant et ça ne passe pas. Il faut que cette parole, donc... Rappelons-nous toujours, oui, la mère, l'accompagnateur de l'enfant lors de cette expérience du miroir, c'est le représentant du symbolique, à condition qu'il y ait un lien transférentiel d'amour avec cet enfant. C'est la seule façon que ça passe.
Parce qu'en fait, elle dit ce que tout le monde pourrait lui dire, mais ce qu'il vit à son contact et ce qu'elle vit à son contact, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui est enraciné depuis sa naissance, depuis très longtemps déjà, et qui est la présence, qui est tout à fait autre chose que l'apparence de cette présence.
L'écart entre l'image inconsciente du corps et puis le schéma corporel, le schéma visible, c'est un traumatisme, c'est une blessure.
C'est un croisement entre l'image inconsciente du corps qui n'est pas spéculaire et l'apparence de ce corps pour les autres, comme pour soi-même, un autre à soi-même. C'est un croisement et c'est existentiel.
L'écart entre l'image spéculaire et l'image inconsciente du corps inconsciente en lui, c'est cet écart qui fait mal, qui provoque une blessure. Une blessure avec, à laquelle nous nous habituons.
Non seulement nous nous habituons, mais nous nous apprenons à jouer du mensonge.
Aussi.
Puisque c'est à partir de la découverte dans le miroir de son visage que l'enfant apprend que des grimaces font croire qu'il rit ou qu'il pleure, alors que, justement, l'aveugle jamais n'a ça. Il est toujours vrai dans ses mimiques, parce qu'il n'a pas appris à mentir grâce à l'apparence que nous pouvons donner et qui vont faire une monnaie de singe pour l'autre.
Il ne fait pas le singe.
Les
effets négatifs du miroir, ils existent. Vous racontez aussi l'exemple d'une petite fille devenue schizophrène à 2 ans et demi.
Morcelée.
C'est une histoire étonnante.
C'est une histoire étonnante. Une enfant qui était très vivante avant de quitter à la fois son pays, parce qu'elle était venue en voyage avec ses parents ici. Et il y avait elle et un bébé. Ils étaient deux. Elle avait 2 ans et demi. Et j'ai vu les photos et puis j'ai eu le témoignage des grands-parents aux États-Unis. En 2 mois, à l'hôtel à Paris, avec une personne qui ne parlait pas l'américain, qui baragouinait un peu avec un accent anglais, mais qui parlait que français pour une enfant qui ne comprenait que l'américain. Et elle était dans une chambre où tous les meubles étaient en glace. Et elle s'est morcelée dans toutes ces images et elle est devenue, en 2 mois, elle est devenue une enfant qui avait perdu à la fois le langage et qui avait perdu la possibilité de déglutir. Elle ne pouvait pas déglutir. Les parents occupés à visiter Paris et l'avaient laissé à une personne baby-sitter qu'ils avaient pris quelconque. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait eu la transformation de la vie du bébé. La maman était changée puisqu'elle avait eu un bébé et elle nourrissait le bébé entre ses visites de Paris. Et elle avait quitté le lieu où elle était avant. Et en même temps, elle avait quitté le langage, c'est-à-dire le miroir du langage de la grand-mère, des personnes en Amérique qui s'occupaient d'elle. Elle avait tout perdu de ce qui est langage. Elle était redevenue un tout petit bébé, fœtus presque, puisqu'elle ne savait pas avaler ce qu'un bébé sait au début. C'était dramatique. J'ai jamais vu quelque chose aussi dramatique que ça. Ça avait été un concours de circonstances, d'aliénation totale de cet enfant, où les parents avaient cru bien faire de l'emmener avec eux, faire ce voyage en Europe, au lieu de la laisser à ses grands-parents.
C'est pour ça que la multiplication de l'image spéculaire peut être aussi néfaste, peut avoir des effets négatifs sur l'image inconsciente du corps
surtout,
de l'enfant.
Multiplication sans parole vraie.
Voilà.
Sur là, c'est un bout de ta jambe qui se voit dans le miroir, là, c'est un bout de ta main qui se voit dans le miroir. Cet enfant s'était entièrement morcelé et n'avait plus gardé d'unité biologique presque, puisque l'avalement, la déglutition ne se faisait plus.
C'est-à-dire que l'image spéculaire n'est pas l'image inconsciente du corps, mais cette image spéculaire est tout à fait nécessaire à la constitution de l'image inconsciente du corps. Et pour cette constitution, il faut qu'il y ait la parole de ce représentant, qu'on disait, symbolique. Or, parfois, s'il n'y a pas la parole, et si l'image spéculaire est démultipliée partiellement, et soudain, et il faut que ça soit une chose massive aussi, comme c'était le cas de cet enfant, ça devient non pas constitutif de l'identité de l'enfant, comme on parlait hier, de l'identité de l'enfant, mais ça devient nuisible à la constitution, justement, de l'enfant.
Cette manière de voir la place du miroir dans le développement de l'enfant, elle vous est tout à fait personnelle. Je crois que chez Lacan, il y a une autre vision des choses.
Oui, effectivement, j'ai essayé dans ce livre, L'enfant du miroir, à un moment, à comparer les deux conceptions du miroir chez Dolto et puis chez Lacan. Dolto considère que l'image spéculaire vient d'une certaine façon après, si vous voulez, et vient s'intégrer dans la constitution de l'image inconsciente du corps qui, d'une certaine façon, est comme préalable. Ça, c'est très important. Alors que Lacan, pour lui, l'image spéculaire, c'est une image qui vient comme rassembler la réalité dispersée du corps de l'enfant. Pour Dolto, ce corps est déjà un continuum. Je crois que c'est un continuum du fait qu'il vient déjà des parents. Je crois que Dolto...
C'est-à-dire, moi je pense qu'il a été impressionné par ce qu'il appelle l'assomption jubilatoire de l'enfant qui voit dans le miroir bébé.
Voilà,
Et c'est vrai que c'est extraordinaire de voir un enfant qui, la première fois, voit son image dans le miroir.
Qui rit aux éclats.
Qui rit aux éclats et qui va vers ce miroir. S'il n'y va pas, il a vu bébé, il est content. Il croit que c'est un bébé, mais il ne sait pas que c'est lui. Mais là, il a vu ça et ensuite, tout sous ce jeu de grimaces au miroir, de s'amuser devant et tout ça, qui est le côté, à mon avis, mensonge qui commence, n'est-ce pas, que l'enfant a découvert par le miroir la possibilité de mentir par son apparence. Et là, il a appelé ça l'assomption jubilatoire qui unifiait l'être humain, voilà. C'est-à-dire qui lui découvre le langage de la mimique. pour les autres. Il n'avait pas d'ailleurs fait l'analyse des petits.
Effectivement, pour Lacan, il y avait l'importance du fait que l'image du miroir rassemble le sujet. Alors que pour Dolto, elle vient marquer plutôt la séparation entre l'image spéculaire, qui est très différente de l'image inconsciente du corps.
Ça, c'est une castration.
C'est une castration, que Dolto appelle castration. Par contre, il y a un point commun chez tous les deux, c'est l'importance de l'accompagnateur. Pour Lacan, c'était très important que l'enfant, au moment où il voit devant lui cette image pour la première fois, il tourne sa tête à droite, il lève sa tête pour regarder sa mère, pour voir comment sa mère réagit devant l'image qui est de lui dans la glace. Et chez tous les deux auteurs, chez Madame Dolto et Lacan, la place du tiers symbolique est très importante.
Quand vous avez dit le mot castration, ça, pour les gens, c'est très étonnant ce mot-là, parce qu'il rapporte à ce qu'on fait aux animaux pour qu'il n'y ait pas de produits vivants. Mais ce n'est pas du tout ça en psychanalyse. La castration est symboligène, c'est-à-dire qu'après l'épreuve, il y a un travail qui se fait et qui rend d'une façon symbolique la richesse qu'il y avait avant cette épreuve. Et c'est ça qui se passe. Quand c'est bien vécu, le miroir. L'enfant sait que pour les autres, il donne une image et que ça fait partie de son être au monde de donner une image correspondante à qui il est aussi pour les autres. Et c'est très important qu'on sache que la castration en psychanalyse a un effet symbolique.
De toute manière, avant même l'image de la mère dans le miroir, le premier miroir, comme le disait Juan David Ignacio tout à l'heure, c'est le premier visage qui se penche sur un enfant.
Absolument. C'est d'ailleurs intéressant en éthologie, si on compare ça à ce que Lorenz dit. Le premier visage qui se penche sur un canard qui naît, et c'était lui. Et comme il disait, s'il ne se mettait pas à croppeton devant les petits canards en les amenant à la rivière, il n'y aurait jamais été. Parce que la mère, c'était lui.